Chapitre 4. Le monde du dedans. Si vide d'espoir est le monde du dehors, que deux fois plus précieux, mais le monde du dedans. Emily Brontë. Commençons par les bonnes nouvelles. Les ventes des deux premiers tomes sont toujours aussi excellentes. Milo tourna l'écran de l'ordinateur dans ma direction. Des courbes rouges et vertes s'envolaient vers le plafond du graphique. L'international a pris le relais du marché américain et la trilogie des anges est en train de devenir un véritable phénomène planétaire. Rien qu'en 6 mois, tu as reçu plus de 50 000 courriels de lecteurs. Tu te rends compte ? Je tournai la tête et levai les yeux. Je ne me rendais compte de rien. Des nuages vaporeux s'étiolaient dans l'air pollué de Los Angeles. Aurore me manquait. À quoi me servait ce succès si je n'avais personne à qui le partager ? Autre bonne nouvelle, le tournage du film commence le mois prochain. Keira Knightley et Adrien Brody ont confirmé leur accord et les pontes de Columbia sont enthousiastes. Ils viennent d'engager le chef décorateur des Harry Potter et table pour une sortie en juillet prochain sur 3000 écrans. Je suis allé assister à quelques castings, c'était formidable. T'aurais dû venir. Tandis qu'une serveuse apportait les plats que nous avions commandés, des tagliatelles au crabe pour lui et une omelette aux chanterelles pour moi, le téléphone de Milo vibra sur la table. Il jeta un coup d'œil au numéro qui s'affichait, fronça les sourcils et hésita une seconde avant de prendre l'appel. Puis il se leva de table pour s'isoler sous la petite verrière tout en longueur qui reliait le patio au reste du restaurant. La conversation ne s'éternisa pas. Elle me parvenait par bribes, hachée par le bourdonnement de la salle. Je la devinais animée, émaillée de reproches mutuels et de références à des problèmes qui m'échappaient.
« C'était Double Day !»
m'expliqua Milo en revenant s'asseoir. Il rappelait à propos d'une des choses dont je voulais te parler. Rien de bien grave, juste un problème d'impression dans la version deluxe de ton dernier roman. Je tenais à cette édition que j'avais voulu soigner. Couverture gothique en simili-cuir, dessin à l'aquarelle des principaux personnages, préface et postface inédites. Quel genre de problème ? Pour faire face à la demande, ils ont lancé le tirage dans la précipitation. Ils ont mis leur imprimeur sous pression et quelque chose a merdé. Résultat ? Ils ont 100 000 exemplaires défectueux sur les bras. Ils vont les pilonner, mais l'ennuyeux, c'est que certains ouvrages ont déjà été livrés aux libraires. Ils vont rédiger un courrier pour les rapatrier. Il tira un exemplaire de sa sacoche et me le tendit. Même en le feuilletant distraitement, la malfaçon sautait aux yeux puisque, sur les 500 pages que comptait le roman, seule la moitié était imprimée. L'histoire s'arrêtait brutalement au milieu de la page 266 sur une phrase elle-même inachevée. Billy essuya ses yeux noircis par des coulées de mascara.
« S'il te plaît, Jack, ne t'en va pas comme ça !»
Mais l'homme avait déjà enfilé son manteau. Il ouvrit la porte, sans un regard vers sa maîtresse.
« Je t'en supplie !»
hurla-t-elle en tombant. Et c'était tout. Pas même un point. Le livre s'achevait sur « En tombant », suivi de plus de 200 pages blanches. Connaissant mes romans comme mes récitations, je n'eus aucun mal à me souvenir de l'intégralité de la phrase. « Je t'en supplie !» hurla-t-elle en tombant à ses genoux. « Bon, on s'en fiche de ça !» trancha Milo en empoignant sa fourchette. « À eux de se démerder pour régler cette affaire. Le plus important, Tom, c'est... » Je savais ce qu'il allait dire avant même qu'il ne termine sa phrase. « Le plus important, Tom, c'est... ton prochain roman !» Mon prochain roman. Il prit une grande bouchée de pâte puis recommença à frapper sur le clavier de son ordinateur.
« L'attente est énorme !» Regarde un peu ça.
L'appareil était connecté sur le site de vente en ligne, Amazon.com. Rien qu'avec les précommandes, mon futur roman était déjà classé en première position, juste devant le 4e épisode de Millennium.
Qu'est-ce que tu penses de ça ?
Je bottais en touche. Je croyais que Stieg Larsson était mort et que le tome 4 ne serait jamais publié.
Je te parle de ton roman, Tom.
De nouveau, je regardais l'écran. Hypnotisé par la mise en vente de quelque chose qui n'existait pas encore et qui n'existerait probablement jamais. La sortie de mon livre était annoncée pour le 10 septembre prochain, dans un peu plus de 3 mois. Un livre dont je n'avais pas écrit la moindre ligne et dont je n'avais en tête qu'un vague projet de synopsis. Écoute, Milo. Mais mon ami n'était pas décidé à me laisser parler.
Cette fois, je te promets un lancement digne de Dan Brown. Il faudra vraiment vivre ailleurs que sur Terre pour ne pas être au courant de la sortie de ton roman.
Emporté par son enthousiasme, Milo était difficile à arrêter.
J'ai commencé à faire monter la sauce et le buzz bat déjà son plein sur Facebook, Twitter et les forums de discussion où tes aficionados rivalisent avec tes détracteurs. Milo, rien qu'aux États-Unis et en Angleterre, Doubleday s'est engagé sur un premier tirage de 4 millions d'exemplaires. Les grandes enseignes anticipent une semaine fantastique. Comme pour les Harry Potter, on fera ouvrir les librairies à minuit. Milo, et toi, il faudra que tu te mettes plus en avant. Je peux te négocier un entretien exclusif sur NBC. Milo, il y a un vrai engouement, Tom. Aucun autre écrivain ne veut sortir son livre la même semaine que toi, y compris Stephen King, qui a reporté sa version poche en janvier pour éviter que tu lui piques ses lecteurs. Pour le faire taire, j'abattis mon poing sur la table. Arrête avec tes délires! Les verres tremblèrent et les clients sursautèrent, jetant des regards réprobateurs dans notre direction. Il n'y aura pas de prochain livre, Milo. En tout cas pas avant des années. Je n'y arrive plus, tu le sais très bien. Je suis vide, incapable d'écrire la moindre ligne, et surtout, je n'en ai plus envie. Mais essaye au moins. Le travail, c'est le meilleur des médicaments. Et puis, écrire, c'est ta vie. C'est LA solution pour te sortir de cette torpeur. Ne crois pas que je n'ai pas essayé. Je me suis remis 20 fois devant mon écran, mais la simple vue de mon ordinateur me révulse. Tu pourrais peut-être acheter un autre ordinateur ou écrire à la main sur des cahiers d'écolier, comme tu le faisais autrefois. Je pourrais essayer d'écrire sur des parchemins ou des tablettes de cire que ça ne changerait pas grand-chose. Milo sembla perdre patience. Avant, tu pouvais travailler partout. Je t'ai vu écrire à la terrasse des Starbucks, sur les sièges inconfortables des avions, assis contre les grillages des terrains de basket, entouré de types qui beuglaient. Je t'ai même vu taper des chapitres entiers sur ton téléphone portable en attendant le bus sous la pluie. Eh bien, tout ça, c'est fini. Il y a des millions de gens qui attendent la suite de ton histoire. C'est quelque chose que tu dois à tes lecteurs. Ce n'est qu'un livre, Milo, pas le vaccin contre le sida. Il ouvrit la bouche pour riposter, mais son expression se figea, comme s'il prenait conscience subitement qu'il n'avait aucun moyen de me faire revenir sur ma décision, à part peut-être m'avouer la vérité. « Tom, on a un vrai problème. » Commença-t-il. « Tu penses à quoi ?»« Au contrat. »« Quel contrat ?»« Ceux que l'on a signé avec Doubleday et avec tes éditeurs étrangers. Ils nous ont versé de grosses avances à condition que tu t'engages sur des délais. »« Je ne me suis jamais engagé sur rien. » Moi, je me suis engagé pour toi. Et ces contrats, tu ne les as peut-être pas lus, mais tu les as signés. Je me servis un verre d'eau. Je n'aimais pas le tour que prenait cette conversation. Depuis des années, nous nous étions distribués les rôles. Je lui laissais gérer la partie business et moi, je gérais les délires de mon imagination. Jusque-là, ce deal m'avait toujours convenu. On a déjà repoussé la date de sortie plusieurs fois. Si tu n'as pas terminé ton livre en décembre, nous aurons des pénalités financières importantes.
Tu n'as qu'à leur rendre leurs avances.
Ce n'est pas si simple.
Pourquoi ?
Parce qu'on les a déjà dépensés, Tom.
Comment ça ? Il secoua la tête avec agacement.
Tu veux que je te rappelle le prix de ta maison ? Ou celui de la bague de diamants que tu as offerte à Aurore et qu'elle ne t'a même pas rendue ?
Quel culot ! Attends, qu'est-ce que tu racontes ?
Je sais très bien ce que j'ai gagné et ce que je peux me permettre de dépenser.
Milo baissa la tête. Des gouttes de sueur perlèrent sur son front. Ses lèvres se crispèrent et son visage, quelques minutes plus tôt animé par l'enthousiasme, était à présent sombre et décomposé.
« J'ai tout perdu, Tom. »«
Tu as perdu quoi ?»«
Ton argent et le mien. »«
Qu'est-ce que tu racontes ?»«
J'avais presque tout placé dans un fonds de gestion qui s'est pris les pieds dans l'affaire Madoff. »«
Tu plaisantes, j'espère. » Mais non, il ne plaisantait pas.
« Tout le monde s'est fait piéger, » dit-il d'un ton désolé. Des grandes banques, des avocats, des politiques, des artistes, Spielberg, Malkovich et même Elie Wiesel.
Et il me reste combien au juste à part ma maison ? Ta maison est hypothéquée depuis 3 mois, Tom. Et pour être honnête, il ne te reste même plus de quoi payer ta taxe foncière. Mais, et ta voiture ? Elle doit coûter plus de $1 million.
Tu peux même dire 2. Mais depuis 1 mois, je suis obligé de la garer chez ma voisine pour éviter qu'on me la saisisse.
Je restai un long moment silencieux et hébété jusqu'à ce qu'un éclair me traverse l'esprit. Je ne te crois pas. Tu es en train d'inventer toute cette histoire pour m'obliger à me remettre au travail, c'est ça ?
Malheureusement, non.
À mon tour, je pris mon portable pour appeler le cabinet de conseil financier qui s'occupait du versement de mes impôts et avait ainsi accès à mes différents comptes. Mon interlocuteur habituel me confirma que mes avoirs bancaires étaient à sec, ce dont il n'avait, paraît-il, cessé de me prévenir depuis des semaines à travers différents courriers recommandés et messages restés sans réponse sur mon répondeur.
Mais depuis quand n'avais-je plus relevé mon courrier ou répondu au téléphone? Lorsque je retrouvai mes esprits, je n'étais ni paniqué ni même démangé par l'envie de me jeter sur Milo pour lui casser la figure. J'éprouvais juste une très grande lassitude. « Écoute, Tom, on s'est déjà sorti de situations plus difficiles », osa-t-il me lancer. « Tu te rends compte de ce que tu as fait ?»«
Mais tu peux tout réparer », assura-t-il. « Si tu parviens à terminer ton roman dans les temps, on peut remonter la pente rapidement. »«
Comment veux-tu que j'écrive 500 pages en moins de 3 mois ?»«
Tu as déjà quelques chapitres sous le coude, je le sais. »
Je me pris la tête dans les mains. Décidément, il ne comprenait rien à mon sentiment d'impuissance. « Je viens de passer 1 heure à t'expliquer que j'étais vide, que mon esprit était verrouillé, sec comme un caillou. Les problèmes d'argent n'y changent rien, c'est fini. » Il insista.
« Tu m'as toujours dit que l'écriture était nécessaire à ton équilibre et à ta santé mentale. »
« Eh bien, tu vois, j'avais tort. Ce qui m'a rendu fou, ce n'est pas d'avoir arrêté d'écrire, c'est d'avoir perdu l'amour.
Tu te rends compte tout de même que tu es en train de te détruire pour quelque chose qui n'existe pas ?»
L'amour, ça n'existe pas.
L'amour, ça existe sûrement. Mais toi, tu adhères à cette théorie débile de l'âme sœur, comme s'il existait une sorte d'emboîtement parfait entre 2 individus prédestinés à se rencontrer.
Ah bon ? C'est débile de croire qu'il existe peut-être quelqu'un capable de nous rendre heureux, quelqu'un avec qui on aurait envie de vieillir ?
Bien sûr que non, mais toi, tu crois à autre chose, à cette idée qu'il n'y aurait sur cette terre qu'une seule personne faite pour nous. Comme une sorte de part manquante, originelle, dont on aurait gardé la marque dans notre chair et dans notre âme.
Je te signale que c'est exactement ce que dit Aristophane dans Le Banquet de Platon.
Peut-être, mais ton Aristo machin chose et son plancton, ils n'écrivent nulle part qu'Aurore est ta part manquante. Crois-moi, laisse tomber cette illusion. La mythologie, c'est peut-être crédible dans tes romans, mais ce n'est pas comme ça que ça marche dans la réalité.
Non, effectivement. Dans la réalité, mon meilleur ami ne se contente pas de me ruiner. En plus, il se permet de me donner des leçons, éructai-je en quittant la table. Milo se leva à son tour, l'air désespéré. À cet instant, je le sentais prêt à faire n'importe quoi pour m'injecter une dose de créativité dans les veines.
Donc, tu n'as aucune intention de te remettre à écrire ?
Non, et tu ne peux rien contre ça.
Écrire un livre, ce n'est pas comme fabriquer une voiture ou des barils de lessive,
lui criai-je sur le seuil de la porte. Lorsque je sortis du restaurant, le voiturier me tendit les clés de la Bugatti. Je m'installai au volant du bolide, allumai le moteur et enclenchai la première. Les sièges en cuir avaient une odeur entêtante de mandarine et la console en bois laqué, décorée de touches d'aluminium poli, me fit penser à un vaisseau spatial. L'accélération foudroyante me cloua dans le siège. Tandis que les pneus abandonnaient quelques traces de gomme sur l'asphalte, j'aperçus dans le rétroviseur Milo qui me courait après en m'adressant une bordée de jurons.